vous suit.
Voici les titres du journal.
La construction du gymnase du Chablais va de l'avant. La commune d'Aigle a organisé hier soir une présentation publique du plan d'affectation. Les communes du Haut-Lac lancent une analyse de fusion, une étude en deux phases qui devrait livrer ses premiers résultats en 2023. Des élèves de l'école de commerce de Monté organisent un tournoi de yass ce week-end, un projet qui émane d'un cours d'entrepreneuriat. En basket, Vevey a fait un pas de plus vers le titre en Ligue B masculine hier soir face à Zurich. Et en course à pied, Anne-Lise Métraillé règne toujours sans partage sur le 35e Tour du Chablais.
Et pour la météo, c'est une alternance de moments ensoleillés et de passages nuageux qui nous est promis par Météo Suisse pour aujourd'hui et pour demain. D'abord des nuages avant le retour du soleil. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. L'heure était au questionnement hier soir à Aigle. Les autorités cantonales et communales ont tenu une séance publique pour faire connaître les futurs aménagements en vue de la construction du gymnase du Chablais. Le syndic d'Aigle, Grégory Deveau, et Pierre Imhoff, directeur général du territoire et du logement du canton de Vaud, ont répondu aux inquiétudes de la population. Au terme de la discussion, Pierre Imhoff se dit satisfait de cette rencontre.
Je crois que le plan d'affectation lui-même, il semble ne pas avoir posé de problème insurmontable. Il a été un peu discuté, mais finalement, c'est davantage les questions de mobilité qui ont mobilisé l'Assemblée.
Les habitants sont inquiets des potentielles nuisances sonores, de l'augmentation du trafic et des cas de parking sauvage. La question de l'utilisation des lieux hors temps scolaire est également sur toutes les lèvres. Grégory Deveau affirme que ces incertitudes seront étudiées en vue de la séance de présentation du projet cet automne.
On a déjà reçu bon nombre de remarques, d'interrogations de riverains particulièrement, et qui ont déjà été intégrées, ou si elles n'ont pas pu être intégrées, on explique pourquoi. Parce que quand on dit oui, c'est simple, quand on dit non, il faut dire pourquoi. Et ce soir, on a encore certaines questions dont nous n'avions pas forcément toutes les réponses, mais qu'on a intégrées, et l'objectif, c'est surtout pouvoir apporter une réponse et d'avoir un dialogue.
Pour les Aiglons, le rendez-vous est pris en automne pour découvrir le projet de construction du gymnase, un sujet réalisé par Martine Vistiner.
À la Tour de Pelle, la bibliothèque communale et la ludothèque vont fermer leurs portes.
Mais rassurez-vous, cet arrêt n'est que provisoire. Les deux institutions vont interrompre leur service pour préparer au mieux leur déménagement et leur rentrée. Dès le 15 août, elles accueilleront la population dans leur nouvel écrin du collège Courbet, nommé l'ABCD. Il s'agira d'un espace lumineux sur deux étages. La ludothèque bouclera samedi 21 mai. Quant à la bibliothèque, elle suspendra ses activités à partir du 11 juin. C'est aussi la reprise post-Covid pour la troupe junior du théâtre de Lézin-les-Ormont, seule troupe de la région uniquement composée d'enfants entre 10 et 16 ans. Les 30 comédiens présenteront 3 spectacles demain soir et samedi au Théâtre du Nord à Lézin. Au programme des sketchs dans un musée, une pièce dans un hôpital psychiatrique et une enquête autour de la disparition d'une enseignante. L'entrée est gratuite et l'ouverture des portes est à 19h30.
Une analyse de fusion des communes du Haut-Lac est officiellement lancée.
Confrontée aux même problématique de fonctionnement, Viona, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolf estiment qu'il devient essentiel de trouver des pistes pour leur avenir. Les 4 exécutifs voient dans cette démarche la possibilité d'aboutir à la création d'une seule commune de 13 000 habitants. Mais avant de se projeter, il va falloir passer par les 2 phases de l'analyse de fusion. Damien Roch, président de Saint-Gingolf.
La première phase, il s'agira de déterminer les avantages et inconvénients de chaque solution, hein, c'est-à-dire une fusion à 4, une fusion à 3, une fusion à 2, ou pas de fusion et la continuité avec le système actuel avec l'association ACHL. C'est seulement à l'issue de cette phase qu'on pourra donner un agenda pour la suite. Ça dépendra quelles sont les décisions finalement de chaque commune et quel est le timing pour la suite.
Chaque commune pourra donc se prononcer sur les différentes possibilités, à l'image de Viona, pour qui la situation géographique offre d'autres options. Valérie Bressou-Guérin, présidente de Viona.
La commune de Viona, elle a la particularité d'être au centre du Chablais, plus ou moins, avec une vision sur Aigle, une vision sur le Haut-Lac et une vision sur Colombey-Monté. On a déjà des collaborations aussi avec la commune de Colombey-Murat, si on prend l'exemple du triage forestier du Haut-Lac. Et c'est une question évidente. Si on doit se poser la question d'une fusion avec d'autres communes ou de poursuivre des intercommunalités, on doit aussi observer nos voisins avec qui on a une grande frontière commune. Et ça fait partie des interrogations.
Par le biais de cette analyse, les communes souhaitent souligner l'importance de réunir leurs ressources. C'est aussi une façon de renforcer le poids sur l'échiquier politique cantonal. Pierre Zoppeletto, président de Port-Valais.
Aujourd'hui, c'est ça. Quand on voit Sion qui va encore fusionner, qui fait le grand Sion, Martigny, qui va revenir comme c'était à l'époque. Donc, il faut absolument qu'on soit plus important pour qu'on vienne avec du poids.
À relever que plusieurs ateliers citoyens se tiendront en 2023 afin de présenter les enjeux d'une fusion. C'était un sujet réalisé par Xavier Borgeau.
Hashtag, trois cartes ou autres annonces seront les maîtres mots ce samedi à Choé.
6 élèves de l'école de commerce de Monté organisent un tournoi de yas à la salle de gym. Ce projet fait partie de leur cursus scolaire durant lequel ils suivent un cours qui leur apprend à entreprendre. Arnaud Dubois, enseignant à l'école de commerce de Monté, au micro de Guillaume Abbé.
En deuxième année, il y a effectivement ce cours qui s'appelle le PPI, partie pratique intégrée. Et puis le but, là, c'est qu'ils développent finalement des compétences un peu entrepreneuriales, qu'ils essaient de monter une petite entreprise durant l'année. C'est un cours, contrairement aux autres, où ils doivent être en tout cas très autonomes. Et puis c'est vraiment développer ces compétences, puis de mettre en pratique finalement ce qu'ils apprennent dans les autres cours.
Beaucoup d'autonomie laissée à ces élèves qui gèrent tout eux-mêmes, de l'emploi du temps au contact avec les fournisseurs. Une expérience tout à fait déroutante pour les adolescents. Mallory Fogel, étudiante et chef de projet du tournoi d'IAS.
Honnêtement, au début, c'était très dur parce qu'on ne sait pas tous vraiment ce que c'est d'organiser un événement. Ensuite, les gens arrivaient à se mettre à leur place. Ça a commencé à avancer petit à petit. Il y a eu de bonnes idées, vraiment. Ça a pu pousser l'équipe. Par exemple, pour aller chercher des sponsors, on s'est beaucoup soutenus. Puis là, maintenant que ça devient bientôt le jour J, on essaye vraiment de donner notre maximum, de faire si quelqu'un ne peut pas le faire parce qu'il est malade, etc.
Cette année, 6 projets différents sont portés par 36 élèves répartis dans les groupes. Ils travaillent par exemple sur l'agenda scolaire de l'année prochaine, l'organisation du bal de fin d'année et le tournoi de yas de samedi. La Suisse a été pointée du doigt durant la pandémie en raison de son retard dans la gestion numérisée des données de santé. Le Conseil national veut corriger le tir. Il a décidé de booster le dossier électronique du patient et il demande au Conseil fédéral une stratégie de gestion et d'exploitation des données numérisées de santé. Le conseiller national valaison du centre, Benjamin Roduit.
Il ne suffit pas de remplir les ordinateurs de données, mais il faut que les médecins, pharmaciens, hôpitaux sachent quelles données ils doivent fournir. Comment est-ce qu'on va gérer, traiter, interpréter ces données pour prendre les meilleures mesures possibles. Et cela permettra d'éviter de grosses erreurs, comme dans le cadre du Covid, hein, où on n'était même pas capable de réfuter des fake news parce qu'on n'avait pas de données fiables et surtout vérifiables sur le terrain. De nombreux médecins me disaient, mais écoutez, c'est n'importe quoi, ce qui est en train de se décider maintenant au niveau de la task force, parce qu'eux vivaient une autre réalité. Ça, eh bien, ça ne se passera plus avec ce concept de data literacy, un anglicisme hein, qui fait peut-être un petit peu peur, mais qui résume ce concept qui est déjà en application dans certains pays européens.
Benjamin Roduit répondait à Serge Jubin, notre correspondant parlementaire.
Le conseiller national Roger Köppel a-t-il violé son secret de fonction ?
Pour le savoir, une commission du Parlement fédéral a levé son immunité hier. Le but, permettre au ministère public de la Confédération de mener une enquête sur l'élu zurichois et patron de presse. Les explications à Berne de notre correspondant Frédéric Nejat Toulamy.
Roger Köppel est soupçonné d'avoir rendu publique une note d'information confidentielle du département des affaires étrangères. En mars, il avait dévoilé dans un de ses médias qu'une perquisition avait eu lieu dans la filiale d'un horloger suisse à Moscou. Les services de sécurité russes auraient alors confisqué des montres de luxe. Cela faisait suite à l'application des sanctions européennes contre la Russie par notre pays. Membre de la commission de politique extérieure, l'élu UDC y a accès à des informations de ce type. Afin de pouvoir mener une enquête, le ministère public de la Confédération avait demandé au Parlement de lever l'immunité du conseiller national. Roger Köppel lui-même y était favorable. C'est à présent à une commission du Conseil des États de confirmer cette décision pour qu'elle devienne effective.
Un deuxième conseiller national a subi la même procédure hier. Le socialiste zurichois Fabian Molina avait participé en février à un défilé non autorisé par les autorités. Il s'agissait d'une action contre des manifestants opposés aux mesures restrictives dues à la pandémie en ville de Zurich. Le ministère public de cette ville avait alors demandé au Parlement sa levée d'immunité qui le protège. La commission du national vient de refuser.
Au moins 3 morts et 12 blessés.
Voilà le premier bilan d'une frappe aérienne russe qui a frappé cette nuit la ville de Novgorod-Siversky dans le nord-est de l'Ukraine. Les Russes ont frappé des infrastructures critiques, dont des écoles. D'autres bâtiments administratifs et des maisons résidentielles ont également été endommagés, a indiqué plus tôt dans la matinée le gouverneur de la région de Tchernigiv. Il a accompagné son message de plusieurs photos sur lesquelles on voyait des bâtiments complètement détruits, des voitures calcinées et un nuage de fumée émergeant des décombres. On passe au sport. En tennis, Stan Wawrinka fera son retour à Gstaad au mois de juillet. Les organisateurs du tournoi bernois ont confirmé aujourd'hui la participation du joueur vaudois, dont la dernière apparition dans l'Oberland remonte à 2013. Pour cette édition 2022 du Swiss Open, prévue du 17 au 24 juillet, l'ancien numéro 3 mondial sera notamment accompagné par l'Italien Matteo Berrettini et le bernois Dominic Stricker.
En basket, Vevey est à une victoire du titre en Ligue B masculine.
La formation vaudoise a de nouveau fait parler sa puissance hier soir en finale des play-offs. Lors de l'acte 2 aux Galeries du Rivage, les hommes de Niksa Bavsevic se sont largement imposés 98 à 47 face aux Grasshoppers Zurich. Une victoire qui n'a souffert d'aucune discussion, tant les Veveysans ont été supérieurs sur tous les plans. Comme ce fut le cas tout au long de la saison régulière, la domination est totale dans cette série. Y a-t-il un manque de concurrence à cet échelon? La réponse de Jonathan Duba, joueur du Vevey Riviera Basket.
C'est vrai qu'on a, une équipe qui a plus de talent, on s'entraîne surtout beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus que toutes les autres équipes Ligue B. Je veux dire, on a quand même 7 à 8 entraînements par semaine de 2 heures. Et donc forcément, la progression, elle est là. Et on voit que depuis le début de la saison, tous nos joueurs ont vraiment progressé. Et maintenant, on arrive à notre pic sur la saison. Mais tout en sachant que cette préparation, c'est pour l'année prochaine. Et du coup, on ne va pas s'adapter au niveau des équipes Ligue B. Mais justement, on va se concentrer sur nous, sur notre jeu et essayer de s'améliorer chaque match.
Et ce succès s'est construit très rapidement. Au terme du premier quart-temps, les pensionnaires des Galeries du Rivage menaient déjà de plus de 20 points. Une situation de domination qui peut parfois cacher les petits réglages qui existent et qui doivent malgré tout être corrigés, comme l'explique l'entraîneur du Vevey Riviera Basket, Niksa Bavsevic.
Bien sûr qu'il y a, moi je vais garder ça pour la vestiaire et pour le terrain avec mes joueurs. Mais c'est évident et ça qui fait moi plaisir que l'équipe a progressé, pour exemple. Je ne veux pas de sous-estimer personne, mais il y a beaucoup d'équipes à ce niveau, à Ligue B, qui sont à début et à la fin jouer à même niveau. Nous, par contre, nous avons fait un grand progrès. Il y a 5, 6, 7 joueurs qui ont fait un énorme progrès et qui ont montré qu'ils peuvent jouer à Ligue A.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Le troisième acte sera donc déjà décisif pour le Vevey Riviera Basket. Les Vaudois mènent 2-0 dans cette série avant le troisième duel prévu samedi 17h30 en terre zurichoise.
En course à pied, un nouveau vainqueur est venu ajouter son nom au palmarès du 35e Tour du Chablais.
Alexandre Jodidio a remporté hier soir la 4e étape à Morgin. Le Fuyérin a bouclé le parcours de 7,3 km pour 250 mètres de dénivelé en 23 minutes et 47 secondes. Il a ainsi survolé les débats. Le Valaisan s'est imposé avec près de 2 minutes d'avance sur le leader du classement général, le coureur de Saint-Trifon, Maël Boren. Chez les dames, les mercredis se suivent et se ressemblent en revanche pour Annelise Métraillé. L'athlète valaisanne a réussi la passe de 4 sur les routes morginoises. Elle l'a emporté en 29 minutes et 22 secondes. Annelise Métraillé revient sur sa performance.
Ça a été, je suis partie tranquille comme d'habitude et puis je me suis laissée guider un petit peu. Je savais que ça montait jusqu'au 4e kilomètres à peu près, et puis après c'était la descente, et puis voilà. La descente, c'était encore pire que la montée, franchement, ça tape pas mal.
La semaine prochaine, le Tour du Chablais fera halte à Aigle pour une 5e étape également accidentée de 8,4 km. C'était un sujet signé Julien Traxel.
L'actu en continu, radiochablais.ca.